Phil BM. Politique.
This has been a battle, and battles sometimes make great friendships, so it's really terrific.
La menace économique qui posait l'incertitude entourant le processus de renégociation était sérieux et il fallait agir. Et les Canadiens ont répondu à l'appel en travaillant ensemble afin d'arriver à un nouvel accord modernisé qui nous permet d'avoir une relation économique stable et forte avec nos plus importants partenaires.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était Donald Trump et Justin Trudeau ce matin lors de la signature officielle donc de ce nouvel ALENA pour discuter de cela et de bien d'autres choses. Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Bonjour, Bernard.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Alors, Carl, donc, c'est réglé. Évidemment, il faut jamais oublier le fait qu'au-delà de cette signature, ça va devoir être ratifié par les parlements des trois pays. On sait qu'au Mexique, ça pourrait poser peut-être un problème. Au Canada, les libéraux sont majoritaires, ça devrait aller. Au Congrès, on ne sait pas trop, là, évidemment, parce que c'est la Chambre toujours, des représentants est majoritairement démocrate. Là. Voilà.
Une devinette, oui, c'est ça. Mais,
c'est le Sénat, non? C'est le Sénat davantage que la Chambre des représentants dans le cas des traités. Donc, ça devrait être les républicains. Ils sont encore majoritaires. On verra bien.
Le Congrès a quand même son mot à dire. Et il y a évidemment un nouveau Congrès, une nouvelle dynamique. On s'attend pas à ce qu'on touche à ça avant le début de l'année prochaine, là, le temps que tout ça soit en place. Le Mexique, c'est vraiment le wild card, comme on dit, hein, parce que celui qui était là aujourd'hui, là, Enrique Peña Nieto, ben son mandat se termine en fin de semaine. Le nouveau président mexicain va prendre ses fonctions. Lui est plutôt de mouvance socialiste.
Oui.
Pas toujours clair qu'il est en accord avec l'ensemble de l'accord. Enfin, on va voir ce que ça va donner.
Peña Nieto, si je ne m'abuse, ça prend fin ce soir à minuit.
Exact.
Et c'est demain, le nouveau président devient président à minuit et une ce soir. Il a signé ça juste avant de quitter. Ouais.
On est-tu à la dernière minute? Oui, on est à la dernière minute. Puis c'est intéressant parce que, écoute, on peut se le dire, là, ils sont à Buenos Aires, tout le monde, qu'on signe un accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada en Argentine. C'est un peu spécial, d'une part. D'autre part, quand tu regardais les trois chefs de gouvernement, trois chefs de d'État, ils n'étaient pas tous contents d'être là. C'était un passage obligé. Là.
Mais Donald Trump vient de dire là, en anglais, là, c'est des batailles qui sont dures, mais qui produisent de belles amitiés, des make for great friendships. Alors, on n'est pas des amis, là, nous? Là?
It's terrific. écoute, on n'est pas nécessairement des amis, puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que les tarifs douaniers américains sur l'aluminium et sur l'acier sont toujours en vigueur.
Ouais, ouais.
Et donc, même si l'accord permet au Canada d'échapper à des tarifs potentiels sur l'exportation de 2,6 millions de voitures, ce qui est actuellement beaucoup plus que ce qu'on exporte, et probablement pour un bout de temps suite à la fermeture de GM à Oshawa, il y a quand même un irritant majeur. Et d'ailleurs, Justin Trudeau a profité de la cérémonie. Là. On va écouter l'extrait, mais si vous avez la chance, allez voir ça. Le visage de Donald Trump vaut mille mots. Justin Trudeau qui demande à Trump d'agir sur ce dossier-là, on l'écoute.
Make no mistake, we will stand up for our workers and fight for their families and their communities. And Donald, it's all the more reason why we need to keep working to remove the tariffs on steel and aluminum between our countries.
Oh, boy, ça, c'est rare, hein? Il l'appelle Donald, c'est pas Mr. President. Ça, c'est... Vous pouvez être certain que chaque mot a été pesé. Donc, t'es mon ami, je t'appelle par ton prénom. Donc, les tarifs de 25% sur notre acier puis 10% sur notre aluminium, Donald, faut que t'enlèves ça.
Il faut que t'enlèves ça, il faut que t'agisses. Alors, évidemment, on voit Trudeau qui tente de prendre l'offensive sur ce dossier-là. Et puis, Donald, même si on est des grands amis, là, n'était pas content. De l'autre côté,
tu veux dire son visage
écoute,
ah oui,
regardez la face, ça vaut peut-être même la signature de l'accord, je suis pas certain, mais ça vaut le coup d'œil, allez regarder ça. Il faut dire que pour le gouvernement fédéral, on passe à l'offensive, donc on amène le message sur les revendications canadiennes plutôt que sur la défensive, parce que évidemment, le gouvernement fédéral toujours sous pression concernant la gestion de l'offre. On peut écouter la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, sur ce dossier, et ça amène des réactions à Québec. Paul pourra nous en parler immédiatement après. Mm-hmm.
On a commencé avec une demande très très forte du côté américain que le Canada doivent abolir complètement la gestion d'offres. Au contraire, cet accord qu'on a signé aujourd'hui garantit l'existence dans l'avenir de la gestion d'offres. Et c'est vraiment une réussite pour le Canada.
Oui, garantie dans l'avenir. Je ne suis pas certain que ça garantit pour, en tout cas, un avenir à très court terme peut-être. Là, pour le moyen terme, on en rediscutera. On va aller à Québec pour les réactions, Paul.
Oui, ben, tir groupé de l'opposition contre François Legault. Autant les libéraux que les péquistes et les solidaires disent « Opposez-vous à l'accord, M. Legault, parce que nos producteurs laitiers n'ont pas été respectés et pour l'instant, ils n'ont pas encore été indemnisés. » Mais qu'est-ce que peut le Québec? Il y a une différence entre un pouvoir de blocage et un pouvoir de pression politique. Et je pense que tout ce que François Legault peut faire pour l'instant, c'est mettre toute la pression sur Justin Trudeau pour qu'il indemnise les producteurs laitiers. Souviens-toi, Bernard, en campagne électorale, François Legault, il avait dit « Si jamais nos producteurs laitiers ne sont pas pleinement indemnisés, ben Justin Trudeau, il ne pourra pas se présenter en campagne électorale au Québec là, sans se faire écœurer, puis il va payer le prix. » Là, maintenant, c'est un autre discours. François Legault est au pouvoir. Donc, les pressions, elles peuvent s'exercer publiquement ou en coulisses. On sait qu'il va y avoir une rencontre dans les prochains jours, la semaine prochaine, entre François Legault et Justin Trudeau. Donc, ça va assurément être à l'ordre du jour. Mais tu sais, c'est le même vieux scénario qui se répète. Puis ça, M. Legault l'a répété, c'est que les producteurs de lait, comme ça a été trop souvent le cas, ont été sacrifiés, puis il dit « on est déçu, il faut que ça arrête, mais qu'est-ce que vous allez faire pour que ça arrête? » La première chose à faire, ça serait de les indemniser. Négo à venir avec le fédéral là-dessus.
Mais j'aimerais vous entendre tous les deux, là, Paul et Carl. Avec les élections fédérales qui arrivent pour l'automne prochain, je pense que le Québec puis les producteurs laitiers ont quand même un bon rapport de force. Je veux dire, Justin Trudeau ne peut pas se permettre d'arriver en élection après l'été prochain, que ce soit pas réglé, puis prendre le risque d'avoir des manifestations de producteurs laitiers ou producteurs d'œufs ou producteurs de volailles dans ces rassemblements, oui. Puis on s'entend.
Puis, de toute façon, les caquistes n'ont pas besoin de l'expliquer à Justin Trudeau. Il sait par où passe sa route pour la victoire. Il a besoin du Québec, donc il n'a pas intérêt à s'aliéner les producteurs laitiers et
Okay. Et c'est la même chose en Ontario, et Doug Ford qui a sauté sur ce cheval de bataille-là pour défendre ses producteurs laitiers. Donc, il y a un alignement entre l'Ontario et le Québec sur cette question-là. Évidemment, c'est les deux provinces où il y a le plus de sièges fédéraux, et pour Justin Trudeau, c'est vital de pouvoir les conserver.
Très bien. Alors, tu nous disais tir groupé, donc toutes les oppositions mettent de la pression sur Legault pour qu'il aille chercher cette fameuse indemnisation qui a été promise par Justin Trudeau envers les producteurs laitiers du Québec. Oui, on verra bien s'il va livrer. On va s'arrêter parce que tu vas pouvoir nous parler quand même un petit peu de cette deuxième période des questions au retour de la pause. Donc, restez avec nous. De retour donc avec Carl et Paul. Paul, un échange intéressant ce matin entre Québec solidaire et le nouveau ministre des Transports, François Bonnardel, sur le troisième lien à Québec, là, le troisième pont ou le pont-tunnel, on ne sait pas trop. Puis on sait que Québec solidaire n'aime pas tellement le troisième lien. Ils l'ont comparé à une ligne de coke, notamment. On va l'écouter, tiens, cet échange.
Le ministre des Transports n'est pas capable de nommer des experts, même pas deux, qui sont en accord avec son projet, même pas un. Il n'amène pas davantage.
Monsieur le Président, le député Jean Lesage peut dire ce qu'il veut. Par idéologie, lui-même, il l'a dit. Peu importe s'il passait seulement des bus ou du covoiturage ou du taxi, j'en veux pas, moi, de troisième lien. Ça, c'est son idéologie. C'est un parti et un député anti-automobiliste. On a eu une promesse, on va la représenter. On va la livrer.
Oui, c'est ça. Évidemment, les caquistes, ça a été l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont raflé toute la région de la grande région de Québec, à part le comté de Jean Talon. Qu'est-ce que tu retiens de cet échange, mon cher Paul?
Ben, je peux pas croire là, qu'après tout ce temps, les caquistes ne sont même pas capables de nommer un seul expert, un seul urbaniste ou autre personne qui est ingénieur qui dit que c'est une bonne idée. Puis,
mais c'est pas ça qu'il a dit, là, Bonnardel. Il a pas dit on n'a pas d'expert.
Ben, il s'est fait demander de nommer un seul expert. Il n'a pas été capable d'en nommer un. Puis c'est pas la première fois que la CAQ se fait poser la question. Il a dit on a les sondages de notre côté. Puis il a traité son vis-à-vis d'idéologue. Puis moi, ça me fait penser à une citation de Steven Pinker, le professeur d'Harvard, qui dit l'idéologie, c'est un peu comme la mauvaise haleine. Hein, tu sens jamais la tienne. Puis c'est l'idéologie. C'est quoi l'idéologie? C'est quand tu nies les faits parce que tu veux coller à tes préjugés de base. Ben, si tu n'es pas capable de trouver une expertise, si les expertises te disent disent le contraire, puis tu persistes avec ta solution. Je comprends qu'il y a un fort rendement électoral, qu'il y a des gens qui sont intéressés par cette solution-là, mais j'ai trouvé que sa défense, elle était plutôt faible.
Mais en même temps, moi, je suis pas un grand fan là, je pense qu'il faut, investir dans le transport collectif, là, et je pense que le troisième lien, là, va être capable de concilier à la fois le transport automobile puis le transport collectif, là,
Quand Bonnardel dit
on mettrait juste du transport en commun sur le troisième lien puis QS serait contre, là, à ce que je sache, il y a raison.
Ben, c'est parce que c'est complètement absurde, là.
Pourquoi c'est complètement absurde d'avoir
Est-ce que tu vas construire une infrastructure d'à peu près 5 milliards pour des autobus alors que les autobus peuvent passer ailleurs?
Non, mais ce qui essaye d'illustrer. Non, mais les autobus, comme les voitures dans la région de Québec, il y a deux ponts présentement qui sont l'un à côté de l'autre. Et ça crée de plus en plus un effet de goulot, d'étranglement. Je pense que le monde qui nous écoute comprenne très, très bien ça. Tu as un passage et les deux ponts sont un à côté de l'autre. L'idée du troisième lien, c'est de faire une boucle, de créer un lien donc plus à l'est, puis d'avoir une espèce de boucle autour de la grande région métropolitaine de Québec, comme il y en a dans plein de régions métropolitaines. L'idée d'un périphérique, là, c'est partout dans le monde, ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Pourquoi ce ne serait pas une bonne idée à Québec?
Mais il y a des raisons géographiques qui font en sorte qu'il y ait une complexité technique et de haut coût si on le fait. Et encore une fois, moi, là, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un urbaniste. Mmh. Il y a des gens dont c'est le métier qui sont penchés sérieusement là-dessus. Puis ils sont pas en faveur de ça à un moment donné. Moi, si le ministre...
Ils sont pas en faveur. Ils sont pas en faveur sur quelle base? Ils disent quoi?
Sur la base, ils trouvent que c'est très, très, très coûteux pour toutes sortes de raisons techniques. Si tu passes vers l'est, proche de l'île d'Orléans...
Champlain, ça n'a pas été coûteux,
Il y a une différence entre remplacer une infrastructure existante, donc la mettre à jour, et en ajouter une autre, n'est-ce pas? Ils disent, c'est quoi l'objectif du troisième lien? C'est de la congestion à terme. Ouais. Et ils disent que à moyen terme ou à long terme, disons après 10 ans, on aura réglé absolument pas les problèmes de congestion. Moi, écoute, si tu es capable de me faire la démonstration chiffrée, sérieuse, que à un coût raisonnable, on va réduire les problèmes de congestion, je suis ouvert, mais faites-moi la preuve. Moi, le gros bon sens, là,
il y a une démonstration dont je peux te faire, en tout cas, que je peux te faire. C'est que si, sur ton troisième lien-là, tu as une ligne réservée au transport collectif et que ça permet de faire la jonction entre le système de transport collectif de la rive sud de Québec avec le nouveau système de tramway et de superbus qui vont être installés sur la rive nord, je peux te dire une affaire, je pense que ça va être très bon pour le transport collectif.
Tu le penses ou tu le démontres? C'est pas la même chose.
Paul, je vais te dire, t'enrobes ton argument dans la science, mais c'est une opinion qui n'est pas nécessairement plus démontrée que la mienne.
Je dis pas que c'est une question de mathématiques blanc ou noir. Je dis juste qu'il faut il y a des choix politiques là-dedans, mais il faut être capable de démontrer que ça va réduire la congestion.
Il y a une chose qui a été démontrée.
Un transport collectif qui est lié à un autre transport collectif. Je vois pas comment ça peut être mauvais pour le transport collectif, là. Expliquez-moi ça, là.
Non, mais il n'y a pas juste ça, là. Je comprends l'argument du transport collectif, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que, à court terme, on règle le problème. Comme Paul l'a dit, dans 10 ans, on revient parce que lorsqu'on ajoute des liens comme ça, lorsqu'on ajoute des autoroutes, lorsqu'on ajoute des ponts, on favorise l'étalement urbain parce que les gens vont s'établir de plus en plus loin. Et c'est ça, la problématique. Et c'est ça que les urbanistes nous disent.
Ouais.
Et
à ce niveau-là. Il y a déjà du monde installé, Carl. C'est parce que
je viens de la région de Québec.
C'est l'examen, l'étalement urbain, là, comme argument, là, je l'achète, mais seulement à moitié, parce que de blâmer l'étalement urbain, c'est comme dire aux gens du 450 qui nous écoutent présentement, qui sont installés à Longueuil, à Chambly, à Boucherville, qui sont installés à Terrebonne ou ailleurs, vous n'avez pas d'affaires là. Ils sont déjà là, les amis. Ils ont le droit du transport collectif, ils ont le droit du transport en commun. On va pas transporter les bungalows de Terrebonne sur l'île de Montréal. Oubliez ça, ça n'arrivera pas.
On n'est pas obligé d'en mettre d'autres, des bungalows.
C'est parce que le monde qui veulent, actuellement, qui sont sur la rive sud de Québec, qui veulent aller travailler sur la rive nord, actuellement, le transport en commun est pourri. Si on est capable d'améliorer le transport collectif à travers ce projet-là, pourquoi ça ne serait pas bon pour le transport collectif?
Il y a une différence entre Montréal et Québec. Des études qui ont été faites récemment qui démontrent que tu as des nouveaux pôles d'emploi où tu as des gens de la Couronne-Nord qui vont travailler à Laval. Donc, c'est plus vrai que les gens de la Couronne-Nord passent toutes par Montréal. Donc, tu as besoin de transport collectif là-bas. Cette situation-là, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu la démonstration qu'elle existe à Québec.
Le transport collectif, c'est bon pour Montréal, ça serait pas bon pour Québec.
Oui, mais écoute, si tu déformes chacun mes arguments comme ça, écoute, c'est pas du tout ça que je dis, là.
Ben, Paul, moi, ce que je te dis, c'est qu'il va y avoir plus de transports collectifs au terme de ce projet-là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, oui ou non? Laisse faire tes études, dis-moi ton opinion. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait plus de transports collectifs?
Moi, je trouve que l'opinion basée sur rien d'autre que deux syllogismes écrits sur un coin napkin, ça vaut rien.
Ben là, plus d'autobus, moi, je vais te dire, là, j'ai pas besoin d'être ingénieur en transport. Quand il y a plus d'autobus sur les routes, ça enlève des voitures. Ça, a priori, c'est une bonne affaire. Est-ce qu'au net, alors là, il peut avoir matière à étudier. Est-ce qu'au net, il va avoir encore plus de voitures malgré celles qu'on aura enlevées grâce à un meilleur système de transport collectif? Ça, on peut en discuter. Ouais, mais de dire que ce projet-là est pas bon, a priori, parce que l'idée qu'il y ait une boucle autour de Québec, ça peut pas s'appuyer sur un espèce de gros bon sens à un moment donné, là.
Mais si quelqu'un me fait la démonstration, encore une fois, je vais l'appuyer, le projet, mais l'ai pas vu. Puis une autre affaire sur l'étalement urbain, moi, qui m'énerve, c'est quand on caricature la position des gens qui sont inquiets de l'étalement urbain, puis on dit, vous êtes en train de faire un jugement de valeur, vous dites aux gens, mettez votre maison sur vos épaules,
sérieusement,
puis allez déménager
ailleurs.
C'est pas ça qu'on dit.
C'est pas ça qu'on dit, mais ça ressemble à ça par moment, là.
Ben, je sais pas.
Moi, j'aimerais mieux.
Peut-être qu'on est toujours capable de trouver la personne qui décrit l'étalement urbain de la façon la plus caricaturale et débile, puis l'utiliser comme épouvantable.
Moi, j'aimerais mieux que ceux qui servent l'argument de l'étalement urbain, là, j'aimerais mieux qu'ils me disent, voici comment on va s'y prendre pour s'assurer que les gens qui vivent dans les banlieues vont avoir un meilleur système de transport collectif. Parce qu'ils payent eux autres aussi pour les métros, puis ils payent eux autres aussi pour les autobus qui sont présentement concentrés sur l'île de Montréal pour ce qui est de la région métropolitaine.
Oui, mais
alors,
mais
le monde du 450, il en paye des taxes puis des impôts. Okay, peuvent-ils en avoir,
une réponse très simple. Les maires de la Couronne-Nord et le maire de Laval se sont réunis en avril dernier pour défendre des propositions communes de transport collectif. J'étais là, j'ai assisté à tout le débat. Leurs propositions étaient intéressante. Ça, c'est de la banlieue qui propose du transport collectif.
Bingo.
Excellente solution, je suis d'accord avec ça.
Bon, mais faisons-le. Arrêtons de...
On ne peut pas tout payer en même temps.
Mais à Québec, ceux qui poussent pour le troisième lien, c'est d'abord et avant tout pour les automobilistes. Puis on a entendu Bonnardel, l'opposition est anti-automobile. C'est de ça dont on parle.
Mais Carl, c'est vrai que l'opposition est très, très anti-automobile à Québec. Je le sais parce que 3 jours sur 7, j'habite à Québec. Et c'est comme si le monde qui sont contre le troisième lien réalisait pas que plus ça va aller, plus on va avoir de voitures électriques et hybrides sur les routes. Fait que l'espèce de préjugé très défavorable des écolos face à la voiture, j'en ai un peu rôle-pompon, parce que c'est les mêmes qui nous parlent d'électrification des transports. Le jour où je vais conduire un char électrique, moi là, je contribuerai pas aux gaz à effet de serre. Ça va être correct, ça? Ça va être correct?
Il faut
se remercier l'un l'autre, là.
Voiture électrique ou pas, ça réglera pas la congestion, ça.
Carl Bélanger, Paul Journet, on va reprendre ce débat.
C'est bon.
Après la fin de semaine, pensez-en une belle. Salut, bye.
Bye.